Michel Denisot, un podcast Europe 1.
Didier Deschamps, bonjour.
Bonjour.
Quelles sont les icônes qui ont fait ce que vous êtes ?
Les icônes, c'est un bien grand mot.
Peut-être vos parents pour commencer.
Je ne les considère pas comme des icônes, mais je ne serais pas là s'ils ne m'avaient pas fait.
Sure.
Et qui m'aient élevé, éduqué, permis d'avoir l'éducation que j'ai reçue avec les valeurs qui sont importantes, même si je me suis construit après tout seul, puisque j'ai quitté le cocon familial à 14 ans, donc à l'adolescence. Donc je me suis fait un peu tout seul, mais les premières
Alors
années de la vie...
Alors quand vous partez de chez vous, de Bayonne à 14 ans pour aller à Nantes, mm-hmm. quelles sont vos références, si le mot icône est trop fort, mais...
J'adorais le foot. J'étais pas un jeune ou un gamin qui avait des posters dans sa chambre. Bon, il y avait les matchs de foot étaient peu télévisés à l'époque. Ouais. Il y avait les matchs de l'équipe de France. Je regardais, mais c'était plus une distraction qu'une passion en elle-même. Et pour moi, j'étais licencié en un club à l'âge de 12 ans à l'Aviron Bayonnais. Pour moi, le football, ce n'était pas un métier.
Hein. Vous pratiquiez quasiment toutes les disciplines à cette époque-là.
Oui, je fais un peu tout. Je touchais très sport, hein, pelote basque, cross, athlétisme, handball. J'ai fait rugby, bien évidemment. Mais j'ai fait un peu tout. Le football, c'est ce que j'appréciais le plus, mais sans penser que j'allais m'orienter sur une carrière professionnelle, parce que, je répète, je ne pensais pas que c'était un métier dont je regardais, mais sans vraiment idolâtrer ou avoir une référence particulière.
Il n'y avait pas un joueur qui vous faisait rêver, que vous aviez envie de devenir, qui était votre référence ?
Non, après, forcément, l'icône qui représentait le football français, c'était Michel Platini. Quoi. Donc,
déjà ?
Oui, déjà. Bon, après, c'était l'époque de Saint-Étienne aussi, mais... Je regardais, mais pas passionné, quoi. Ça m'intéressait, mais comme d'autres sports m'intéressaient, sans être focalisé, comme peuvent l'être les gamins d'aujourd'hui, où à 7, 8 ans, 6 ans, déjà, ils se voient professionnels. Ils ont il y a plus de moyens d'être en contact avec les joueurs aussi, et de les voir à travers les nouvelles technologies, en images, les matchs, À l'époque, on va faire les vieux combattants, mais il y avait quand même moins d'images de
foot. Vous arrivez à Nantes, donc vous êtes au centre de formation, qui a un processus assez sélectif, année après année. Donc il faut sortir du lot.
Oui.
Vous êtes sorti du lot comment ? Enfin, par le travail, par le...
Oui.
Et la passion est arrivée, parce que vous n'aviez pas une passion énorme au départ.
J'ai dû faire un choix. Mes parents m'ont laissé faire un choix à 14 ans et demi. Je voulais suivre mes études, ça c'était indispensable pour moi, c'était capital. Mais le fait d'entrer dans un centre de formation, je prenais une voie plutôt qu'une autre. Donc je savais très bien que c'était pour devenir footballeur professionnel. Après, ils m'ont laissé la liberté à 14 ans et demi de choisir où je voulais aller et ne pas forcément aller au plus offrant, comme on dit.
C'était Auxerre, Bordeaux.
Oui, il y avait 7-8, surtout Bordeaux qui était à proximité avec Claude Besse qui était le président et... Il s'était déplacé dans ma maison familiale. Bon, c'était un peu paradoxal, quoi, par rapport à un environnement plutôt campagne. Il passe pas inaperçu. Et puis bon, les discussions ont vite tourné court puisque c'était qu'une question de d'argent après tout, quoi. Combien à mes parents, combien vaut votre fils, quoi. Et puis j'avais pas de prix, donc ils avaient la possibilité de mettre le prix qu'ils voulaient, mais pour eux, ils voyaient pas ça comme ça. Donc pour en avoir reparlé avec eux après, c'est pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas voulu que je puisse leur reprocher quoi que ce soit par la suite. De me laisser choisir, au moins c'était mon choix. Bon, je ne me suis pas trompé, eux non plus, ils étaient contents. Donc mais c'est une décision importante à 14 ans et demi. C'est pas, ouais.
Et c'est à pas Nantes, évident. Est-ce que Jean-Claude Ciodo est devenu un modèle ?
Ben, moi, j'ai eu Reynald de Noex d'abord.
Ouais.
En centre de formation, qui a été très important, puisque j'étais au contact surtout avec lui, avec l'environnement du centre de formation. Coco Ciodo, il s'occupait des pros, ouais. Donc à 14 ans et demi, même si j'ai vite intégré le groupe professionnel, mais c'était pas, je voyais ça de loin, même si le centre d'entraînement était collé au centre de formation, donc j'ai eu des discussions avec lui ponctuelles comme ça, mais j'étais loin du milieu professionnel, donc c'est plus Reynald de Noex et les différents professeurs que j'ai eus, puisque j'avais des cours particuliers, je faisais des cours par correspondance aussi, donc c'est plus eux, avec eux, que j'ai eu le plus de contacts au début.
Quand vous faites votre premier match en professionnel, je crois que vous remplacez Ali Lodzic.
Ouais. J'ai pas joué avant.
Qui est blessé.
Mais, ouais. Tout à fait. À Brest.
Ouais. Ouais. Et à ce moment-là, quand vous rentrez sur le terrain, vous êtes en tête, vous avez quoi? Quelqu'un? Vous dites, il faut que je sois.
Déjà là, en centre de formation, je vais vous parler de quelqu'un peut-être, oui, qui est connu. Je ne veux pas le blesser, mais qui n'est pas extrêmement connu, mais qui était à Nantes et qui était la référence, qui jouait au même poste, c'était Fabrice Poulain. Tout le monde peut-être ne va pas se rappeler de lui, mais qui a fait une très très bonne carrière, mais qui était vraiment la référence. J'étais un peu dans le même registre. Donc à partir du moment où j'étais à Nantes et je suivais les matchs de l'équipe première, donc évidemment, je regardais beaucoup plus ce que faisait Fabrice Poulain. Je m'inspirais voilà, par rapport... On était à peu près dans le même registre.
Après, il y a eu Marseille. Et est-ce que Bernard Tapie est une icône?
Icône, peut-être pas, mais ça a
Vous
été...
Vous n'avez pas d'icône, en fait.
Non, non, j'aime pas trop icône.
Change le nom de l'émission.
Oui, oui, mais bon, ça peut. Mais icône, c'est fort quand même. Après, qu'il y ait des personnes qui m'aient inspiré, on retient toujours, que ce soit dans le bien ou dans le mal, il y a toujours des choses qui me sont restées de Bernard Tapie aussi, dans le bien et certaines fois dans le mal, mais il m'a dit certaines choses qui sont importantes et qui m'ont servi dans ma carrière aussi. On a eu beaucoup d'échanges les années que j'ai passées.
Ça a commencé difficilement, quoi. Il voulait vous
échanger. Non, ça a bien commencé. Bah après, ça a un peu coincé après mon prêt à Bordeaux. Oui,
vous voulez vous échanger avec, vous voulez vous échanger au PSG avec Anglomas, que je regrette énormément qu'il ait refusé.
On refera pas l'histoire. Mais moi, à partir du moment où Marseille m'avait acheté, voilà, moi, je devais m'imposer à Marseille. C'était pas évident. Je lui ai tenu tête. Je fais en sorte de pas fléchir. Ça aurait pu mal se passer. Mais malgré tout, il m'en a pas tenu rigueur et... La saison qui a suivi, j'ai eu l'opportunité, on m'a donné ma chance. Il m'a donné ma chance. Et je savais que j'allais...
Vous êtes allé la chercher. Hein.
Non, si on ne me la donne pas, on ne peut pas aller la chercher. Ouais. Parce que je me rappelle, le fait que je décide de revenir à Marseille contre son gré, que ça allait être compliqué pour moi, que je n'allais pas jouer. Il y avait l'équipe de France, donc il fallait oublier. Et je me rappelle le premier match qu'on fait de la saison, on se dépasse à Lyon. Et on part à 14 joueurs et je suis 14e, puisqu'à l'époque,
il y avait 13 sur la feuille.
Il y avait 13, et donc je regarde le match des tribunes. Mais bon, il m'a parlé sur le retour en me disant que... Ok, c'est pas une bonne situation, mais que j'aurai ma chance. Donc je savais que j'allais en avoir une et qu'il fallait pas que je manque. Je l'ai eue et je l'ai prise. Ouais. Et après, ça s'est plutôt bien passé.
À la Juventus de Turin, est-ce qu'il y avait une icône ou est-ce que je vais ne pas en trouver une pendant toute l'émission?
Une icône. Il y a un personnage, comme a pu l'être Bernard Tapie à Marseille. Voilà, il y a l'Avvocato Agnelli. C'était pas lui qui, c'était quand même son club, mais bon, il y avait un pouvoir de décision à trois têtes avec Giraudo Bettega, l'ancien joueur, et Luciano Moggi. C'est eux qui dirigeaient le club, mais l'Avvocato, c'était toujours voilà. Et quand il venait, il venait des fois à l'entraînement. Il adorait, puis il parlait français, donc. Il m'accordait toujours beaucoup de temps. Je savais sa grande proximité avec Michel Platini. Donc, à chaque fois, il prenait le temps. On parlait en français de choses et d'autres. Je lui ai juste dit au départ, je suis désolé, mais moi, je ne suis pas Michel Platini. Je ne pourrais jamais faire. Donc, mais ça, il avait bien compris. Mais il avait en plus beaucoup d'humour, même si... dans les médias, par moment, il disait des phrases, ça pouvait être lourd par moment, pas sur moi, mais des fois, il avait des sorties médiatiques. L'Avvocato, c'est sa maison, c'est son club, et c'est toujours le cas, puisque j'ai connu après, et Andrea, qui est aujourd'hui le président du club, c'est la famille Agnelli.
C'est la dynastie, ouais.
Voilà, ouais. Et c'est tellement... Un grand club de A à Z avec tout ce que je pensais, tout ce que j'attendais. J'ai tout trouvé là-bas. Quoi. Donc,
aujourd'hui, vous avez un palmarès sans équivalent en France et dans le monde. Il n'y en a que trois qui ont gagné la Coupe du Monde comme joueur et comme entraîneur, comme sélectionneur. C'est Zagallo, Beckenbauer et vous. Comment vous êtes... on comprend que vous êtes construit vous-même, en fait, parce que les icônes, il n'y en a pas.
Et on s'inspire. De bonnes choses, des mauvaises choses aussi, mais ce que je considérais des mauvaises choses sur le moment et même avec le recul, c'est pas forcément que ça n'a pas amené à de bons résultats, ce qui est paradoxal ou pas. Ce qui veut dire que quand on est entraîneur-joueur, c'est une chose. Mais quand on est entraîneur, si vous n'avez pas de bons joueurs, de très bons joueurs, un bon état d'esprit, vous pouvez être le meilleur des magiciens, vous n'allez pas réussir. Donc vous dépendez des joueurs. Dans la première vie, ça dépend de vous, de vos collègues. Mais vous êtes acteur. Quand on est joueur, la plus belle vie, c'est celle de joueur. Celle d'entraîneur ou sélectionneur, je ne vais pas dire qu'elle est pas belle, mais voilà, ma réussite, c'est d'abord la réussite de mes joueurs. Si j'ai été une deuxième fois champion du monde, que j'ai une part, oui, bien évidemment, je ne vais pas faire le fausse humilité ou le faux modeste, mais c'est surtout la réussite de mes joueurs, parce que je sais ce que c'est quand j'étais joueur aussi.
Alors, je tente une autre icône. Aimé Jacquet.
Vous voyez, icône, grande référence,
ouais.
Au moins, pour ne pas ouais. dire plus. Ouais. Et une éternelle reconnaissance pour ce qu'il a fait de nous et la relation qu'on a pu avoir et que j'ai toujours d'ailleurs et que je considère comme être privilégié encore aujourd'hui de pouvoir échanger avec lui. Voilà,
et puis... Vous avez été son capitaine, son successeur. Est-ce que vous êtes son héritier en même temps, un peu, ou pas? Ou on se construit toujours tout seul?
Après les raccourcis, ouais, je ne sais pas. Je fais pas. Il y a certaines choses, évidemment, qui m'ont inspiré, que j'ai retenu. Ce qui se faisait il y a 20 ans, je ne pense pas que tout soit possible de se faire aujourd'hui. Il faut s'adapter, c'est le maître mot. Quand on est entraîneur, mais il y a des choses basiques qui sont importantes, surtout dans le fonctionnement d'une sélection qui n'a rien à voir avec un fonctionnement de club. Donc évidemment, il y a des repères qui m'ont servi, même si j'ai modifié certaines choses par rapport à ce que je ressens aussi, parce que je suis comme je suis. Après, ce n'est pas faire un copier-coller si on fait des choses que l'on ne ressent pas ou qu'on ne pense pas être les bonnes, ça ne va pas passer vis-à-vis des joueurs. Donc il faut toujours s'adapter, quoi.
En dehors du football, est-ce que vous avez des icônes ou des gens qui sont sur un piédestal dans votre...
Icône, non.
Non.
Non. Non, j'apprécie, je mets toujours en valeur la réussite, quelle qu'elle soit, qu'elle soit pas forcément médiatique, la réussite professionnelle. Il n'y a rien qui arrive par hasard, ce qui ne veut pas dire que... Il y a des gens qui n'ont pas fait des études et qui ne peuvent pas réussir. Il y a des génies aussi, il y a différentes formes d'intelligence. L'intelligence intuitive aussi, elle y est pour beaucoup. Et voilà, il y en a qui ont cette capacité à faire des choses différentes des autres et de réussir. Moi, je ne suis pas envieux, je ne suis pas jaloux. Quelle que soit la réussite, peu importe le domaine, ça doit être source d'inspiration. Ce n'est pas trop dans la mentalité française. Malheureusement, c'est plus la mentalité anglo-saxonne, mais voilà, celui qui réussit, au lieu de chercher à lui trouver des points négatifs ou se dire oui, mais s'il a réussi, il y a des choses qui sont pas claires, non, il a réussi de faire en sorte, voilà, d'être pas exemplaire, mais d'être un exemple, un bon exemple de la réussite. Et quand on se donne les moyens, c'est tout faire. Après, y en a qui font tout, ils ne vont pas réussir aussi. Mais au moins, il n'y a pas de regret envers soi-même.
Est-ce qu'il y a des artistes qui sont pour vous des icônes?
Ah, il y a des... Oui, dans chaque domaine professionnel. Je vais vous en donner un parce que je le connais un peu en dehors de son milieu artistique. C'est Vianney. Qui a cette capacité, au-delà du talent qu'il a, mais d'écriture, quoi, une capacité à pouvoir sortir une chanson comme ça avec, rapidement. Bon, après, bon, c'est un peu personnel, mais parce que j'ai eu droit à une chanson un peu particulière qui m'a accompagné durant toute la Coupe du Monde. Donc, mais cette capacité...
C'était quelle chanson ?
Non, sur un déplacement qu'il a fait pour venir...
Oui
un match et puis avec un groupe qui était avec lui, dont ma femme et mon fils. Et bon, voilà, il a décidé d'écrire rapidement, de faire une chanson qui est magnifique d'ailleurs, mais personne ne l'écoutera et personne ne saura.
Ah oui.
Non, ça reste privé.
Tout est privé chez vous, en dehors du foot.
Ouais, j'aime pas trop ouvrir ces portes-là. voilà, moins. Mais c'est la réalité. Pour vivre heureux, vivons cachés. Je ne vis pas caché, je suis un personnage public. Je m'interdis rien dans la vie de tous les jours. Mais Voilà, la réussite professionnelle, quelle qu'elle soit. Je peux voir les grands cuisiniers. Voilà, c'est pas loin de la...
Acteurs,
actrices aussi, du jour au lendemain. Et puis, il y en a qui peuvent...
Et il y a des acteurs et des actrices, suffit qu'il y ait leur nom au générique, vous regardez le film parce que...
Quand même un peu plus, on est censé avoir pas de garantie, mais on aime, on n'aime pas, ou la présence de certains acteurs donne déjà plus d'envie, de ce qui ne veut pas dire que même le meilleur, il peut faire des fois, comme ils disent, en avait dans leur jargon, quoi, ouais. Comme nous, dans le... on peut être champion du monde et puis rater un match. Pas trop quand même, parce que autrement, je ne serais pas là. Mais le moins possible. Mais voilà, c'est l'être humain, il n'est pas infaillible. Voilà, on peut faire des choses très très bien. Et puis, ça sert aussi. Hein. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et les gens qui ont réussi professionnellement, quel que soit le milieu professionnel, ils ont eu des moments difficiles aussi. Et je suis convaincu que c'est à travers ces moments-là qu'on se construit et qu'on apprend le plus.
Comment peut-on préparer l'euro qui arrive bientôt dans les conditions actuelles ?
En s'adaptant, toujours le maître mot. On sait, aujourd'hui, demain, je ne sais pas, ça peut être modifié, mais c'est planifié, comme on avait planifié quand il devait avoir lieu l'an dernier. Aujourd'hui, on est dans un schéma, on le connaît. Est-ce que ça sera celui-là ? Il y a encore des interrogations par rapport à ça. Est-ce que ça avait du public, sans public ? On sait les dates, le cadre, donc, et on s'adaptera aux restrictions sanitaires qui sont fortes, présentes, mais bon, on n'a pas le choix.
Est-ce que vous êtes le plus heureux de toute votre carrière actuellement en étant sélectionneur ? Vous disiez quand on est joueur, c'est encore mieux, parce qu'il n'y a pas le poids.
Ouais, la plus belle vie, c'est quand on est joueur. Ouais. Mais je suis très heureux dans ma deuxième vie aussi. C'est le privilège des sportifs de haut niveau d'avoir deux vies. La première qui s'arrête malheureusement assez vite parce qu'il y a la limite physique. Et la deuxième vie qui est censée être plus longue mais qui est aléatoire parce qu'on est pris par la première. Et puis retrouver après, ce n'est pas toujours évident, cette reconversion comme on l'appelle. Moi je suis resté dans le même milieu, mais j'étais heureux comme entraîneur même si... c'est un métier usant, passionnant, donc toutes les passions sont dévorantes bien évidemment. Celle de sélectionneur est très appréciable, je me sens vraiment épanoui, mais évidemment pour ça il faut gagner les matchs, et plus on en gagne, mieux c'est, mais il n'y a pas les mêmes exigences, c'est pas du tout le même métier. Quand on est entraîneur en club, c'est H24, donc... la vie à côté, il n'y en a pas, quoi. C'est impossible de décrocher. Sélectionneur, j'ai une vie. Donc, et puis avec les années qui passent, il faut apprécier les choses aussi, quoi.
On n'a pas parlé d'icône politique, j'imagine que vous ne m'en diriez pas, mais vous êtes toujours très fidèle aux présidentes de la République pour les accompagner dans l'opération Pièce Jaune.
Oui, c'est vrai, c'est la troisième année que je suis le parrain. C'est Bernadette Chirac qui m'avait demandé la première fois, et puis... Madame Brigitte Macron, qui a pris la succession, a voulu me garder. C'est avec un grand plaisir et je suis très fier. Bon, après, toutes les causes sont bonnes et méritent d'être défendues et soutenues surtout. Mais voilà, cette cause qui, au soutien des enfants et des ados, un milieu hospitalier, voilà. Ce qui touche à l'enfance, c'est quelque chose... à laquelle je suis très sensible. Donc évidemment, dans cette période difficile, très difficile, d'être généreux, de faire un geste, c'est toujours important pour améliorer le quotidien de ces enfants-là.
Quelles sont les façons d'y participer aujourd'hui,
ça, c'est... Les pièces jaunes se sont adaptées aussi avec la digitalisation, bien évidemment. Donc il y a toujours... par le site internet piègejaune.fr et puis par SMS en envoyant don DON 92 111. Voilà, chacun peut contribuer à faire un petit effort pour tous ces enfants et les parents et le personnel soignant qui en ont toujours et encore plus besoin.
Merci Didier, c'était donc Icône sans icône.
Icône est un podcast Europe 1 présenté par Michel Denisot. Réalisation, Corinne Reich. Programmation, Claire Dutronc. Retrouvez Icône chaque semaine sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1 et vos plateformes habituelles.